liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
De l'april.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'april, semaine 49, année 2015. Salut Manu.
Salut Nico.
Salut Luc. Encore un sommaire chargé, là on se rattrape par rapport à notre petite période de calme pendant les vacances.
Oui, parce que les sujets sont assez éparpillés, donc forcément. Donc on reparle de la loi numérique, codée pour les enfants, le référentiel général d'interopérabilité, des organisations contre, alors on va dire que c'est Palpatine qui débarque à l'éducation nationale, la maison du logiciel libre au Québec, les collectivités et les communs, les logiciels libres à Bretoncelles, et pour finir, les éco-bricoleurs.
Numérama, LOL numérique, ah non pardon, loi numérique, on a lu les 250 réponses du gouvernement, un article de Guillaume Champeau.
C'est vrai que ça ressemble bien, hein, t'as raison, c'est un bon LOL.
C'est un gros LOL, ouais, c'est assez énorme.
On le savait en même temps,
ouais,
on n'est pas surpris, on sait juste que, bon, on savait pas comment ça allait se passer.
Voilà. Donc pour le petit résumé, il y a eu le projet de loi numérique qui a été lancé, on était censé être consulté pour donner notre avis sur ce qu'on voulait.
On a été consulté.
Oui, en gros, ils se sont juste bien assis violemment sur ce qu'on avait dit. Et là, ils viennent de répondre.
Il y a
du coup,
un ou deux trucs qui sont passés.
Ouais, plutôt un que deux quand même. Mais voilà, et donc là, ils avaient dit qu'ils allaient répondre à toutes les propositions qui avaient été les plus soutenues. Et donc là, ils en ont pris 250 et ils ont fait des réponses. Donc ils ont répondu à du Obi-Wan, à des choses comme ça. Donc c'est assez marrant de la part d'un gouvernement.
Une des personnes qui avait fait des propositions.
Puisque le pseudonyme a été autorisé.
Démarche intéressante de la part de Numérama d'aller faire un tour. Ça évite effectivement de relire les 250 réponses. Après, il y a des réponses qui semblent tomber sous le sens. Il y en a pas mal qui disent bah, on l'a pas fait parce qu'il y a un truc en Europe qui est en train de se décider où on est notre loi qui va traiter de ça. Donc si on le fait maintenant, ce sera.
Ça paraissait pas forcément
après.
Idiot. Il y a des fois où les réponses, moi, me paraissent pas idiotes. C'est juste qu'on le verra plus tard. Il y a d'autres cas qui sont.
Oui,
là,
oui, oui. Notamment, moi, je retiens la vente forcée où ils disent ouais, mais non, mais en fait, oui, mais non, il n'y a pas d'urgence, etc.
Oui, c'est déjà
juste...
dans la loi, mais voilà, en fait,
ça
voilà,
fait juste
on attend les résultats
ans,
de l'Europe.
Enfin, plus de 15 ans que le problème se pose. Et tout le monde dit ah non non c'est pas normal mais vous inquiétez pas ça va bouger voilà.
Et à noter aussi voilà. Que c'est là où le gouvernement dit ok on prend généralement c'est que des petites choses, c'est pas les gros dossiers, et effectivement ils ont botté en touche tout ce qui était énorme et ils ont laissé passer des petits trucs à la marge, donc c'est pas une grande réussite de ce côté là
L'Obs, codé un jeu d'enfant, un article de Louis Maurice.
Un article intéressant, on reparle d'un sujet qui est déjà passé par nous, mais qu'on aime bien, les gamins, l'éducation des gamins à coder, à faire vraiment de la programmation.
Et donc là, l'auteur dit que le code, ça va devenir vraiment les choses fondamentales bientôt dans l'éducation.
Comme lire et écrire,
et qu'ils apprendront presque à coder en même temps qu'ils apprennent à lire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans les jeux pour enfants, il y a encore rien ou pas grand-chose. Ils citent juste les Lego et encore, voilà, ça s'arrête assez vite.
Et ce qui paraît pas mal, c'est juste que c'est cher.
Voilà, c'est cher. Et voilà, et donc il incite
les Lego techniques,
les Lego techniques
en plus, ouais. Sont assez compliqués pour des enfants de
6-7 ans. Il dit à partir de 10 ans, voilà, c'est pas pour les tout jeunes. Il dit voilà, les fabricants ont vraiment beaucoup d'efforts à faire là-dessus pour arriver à démocratiser le code, à donner ça
aujourd'hui. Il pense qu'il n'y a pas de marché en tout cas. Voilà.
Mais il dit oui, il y a des choses à faire.
Alors il cite quand même un logiciel libre, hein, je pense que c'est pour ça que c'est dans la revue de presse.
Et oui, c'est Scratch, hein, il me semble.
Tu parles de la nouvelle version 2.0 remplie de Flash.
Ah bah après, ils ont parfois fait des choix qui sont un peu... Mais Flash, en soi, est une technologie libre qui est poussée par des gens qu'on n'apprécie pas forcément.
Ouais, tu me trouveras un lecteur Flash libre et on en reparlera après.
Il y a des lecteurs Flash libres, c'est juste qu'ils sont incomplets, généralement, et malheureusement.
Alors c'est vrai qu'il y a des lecteurs qui marchent pas. En tout cas, bon, moi je trouve que l'article est un petit peu caricatural dans le propos parce que c'est dans le genre « Oui, le code, c'est ça le nouveau langage. Si vos enfants ne savent pas coder, ça va être des ratés et ils feront jamais rien de leur vie et ce seront vraiment les
has-been.
Les has-been et ceux qui se font exploiter, etc. » Donc, programmer ou être programmé, c'est un peu caricatural. Enfin, je veux dire, c'est vachement important effectivement de comprendre, mais il y a plein de choses qu'on peut faire. Obligé de savoir coder nécessairement, c'est super important de savoir comment ça marche, de comprendre. Mais bon, c'est un peu de la caricature quand même. Mais bon, ça mérite de mettre en avant cette importance du code, quoi. Next Impact, la nouvelle version du référentiel général d'interopérabilité se dévoile, un article de Xavier Berne. Donc on rappelle, le référentiel général d'interopérabilité, c'est le document que l'administration centrale, les ministères se donnent sur quels sont les formats qu'ils vont utiliser pour échanger, pour lire les documents, etc. C'est quoi les bons formats?
Et là, la grande nouvelle, c'est que y avait deux formats faits pour les documents des suites bureautiques. Donc il y avait l'ODF donc, qu'on retrouve dans LibreOffice, qui est un format libre et ouvert, et le fameux OOXML de Microsoft, implémenté ou pas dans leur suite Office. Et là, le format OXML de Microsoft a été mis sous surveillance parce que l'administration considère que c'est plus assez stable, que c'est le gros bordel, que c'est très compliqué, c'est pas ouvert, il y a une mauvaise compatibilité avec le reste, ils ont même pas implémenté eux-mêmes leurs propres normes. Voilà, donc ils ont dit aujourd'hui l'ODF c'est le format à recommander et OXML, si ça continue comme ça, on va finir par le dégager.
Alors l'article en parle, c'est quelque chose qui nous fait plaisir plutôt, et je suis d'accord, de montrer que le format de Microsoft est un format à problème, parce que d'une manière ou d'une autre, c'est encore très utilisé, et donc faut pas rêver là-dessus, les gens vont s'y mettre, ils l'utilisent pas mal, donc LibreOffice c'est la bonne solution pérenne, c'est la bonne solution où on est indépendant, mais effectivement c'est pas facile.
Alors eux justement disent que la question n'est pas Microsoft Office contre LibreOffice, mais l'ODT, le format, et en disant vous utilisez ce que vous voulez, mais ça c'est le bon format à utiliser. Alors on en avait parlé il y a quelques mois parce que tout ça c'était discuté, là c'est vraiment la publication, c'est le moment où c'est vraiment rendu officiel. On se souvient que ça s'était fait en deux temps, un premier temps où OXML, donc le truc de Microsoft, avait été carrément viré, et il est quand même revenu en mode d'accord on te met dedans, mais on vous dit pourquoi il s'est nul et pourquoi faut pas le faire. Donc voilà, c'est arrivé, c'est une bonne nouvelle, mais après il y en a plein d'autres mauvaises au niveau des gouvernements et de l'administration.
À noter quand même que la publication au niveau de la Commission européenne a été faite au format .doc, et donc ils ne respectent pas eux-mêmes leur propre format d'interopérabilité, ce qui est quand même assez marrant.
Voilà, ça résume tout le sujet, quoi. Info DSI. 15 organisations dénoncent l'accord entre Microsoft et le ministère de l'Éducation nationale, un article de la rédaction.
15 et probablement plus, puisqu'il y a en ce moment des signatures qui sont en train de circuler, pour se lever contre ce qui vient d'arriver et qui est assez moche.
Voilà, donc ça, c'est les mauvaises nouvelles que j'évoquais tout à l'heure, c'est ça.
Ah, c'est plus qu'une très mauvaise nouvelle, même, surtout quand on recroise avec la loi sur le numérique qui avait plutôt plébiscité le logiciel libre. Et là, on apprend donc que Microsoft a passé un partenariat avec l'Éducation nationale pour foutre du Microsoft, en veux-tu, en voilà, dans le cloud, donc les suites de bureautiques, les suites de mail. Toutes les tablettes avec des fournitures de tablettes pour l'apprentissage, avec
compris l'apprentissage du code qu'on évoquait tout à l'heure. Donc c'est vraiment la mise en coupe réglée de toute l'école et de tous les élèves dans le monde Microsoft.
Oui, parce qu'en gros Microsoft va être là le référent technique et le référent des habitudes à prendre. Donc tout le monde va regarder de leur côté. Et qu'est-ce qu'ils vont utiliser ? C'est pas les logiciels qu'on apprécie.
Alors on se doute que ce genre d'accord ne se négocie pas en un mois. Donc ce qui veut dire que ce truc est en préparation depuis un bon moment. Qu'ils ont fait toute la consultation sur le numérique, etc., tout en sachant que un mois après, ils allaient faire un bon gros partenariat avec Microsoft.
Oui, mais c'est pas le même ministère, ça n'a rien à voir. Voilà. Alors, par contre, ça a à voir avec le ministère de la Défense, qui avait fait ce qu'on appelle le contrat Open Bar. Ça a de furieux airs de contrat Open Bar, ça se demandait s'ils ne devraient pas le faire au niveau du gouvernement en entier, sachant que le ministère de la Défense s'était fait avec...
Tu penses que ce serait bien, c'est ça ?
C'était fait avec l'Irlande pour des causes de tarifs, parce que l'Irlande, il y a moins d'impôts à payer, en gros. Donc, ça nous faisait d'autant plus mal au cœur.
Voilà, donc effectivement, après la Défense, après les hôpitaux, l'Éducation nationale. Donc effectivement, on espère que ça va s'arrêter là, que ça va pas continuer à partir fou du Microsoft tout partout, parce que c'est juste une galère après à s'en sortir.
Alors petit détail, vous allez sur april.org/campagne, l'image qui est mise en avant, c'est donc la ministre de l'éducation à côté de Palpatine, qu'on aime bien, qui signe une reprise d'une image des articles où on voit le représentant de Microsoft bien beau, bien installé.
C'était Cisco, parce que même le ministère a fait une erreur dans les photos.
Ouais, en tout cas moi j'ai entendu dire que chez Microsoft, sur le mur des meilleurs vendeurs, il y avait la photo de Najat Vallaud-Belkacem. Canoë, l'ETS ouvre la maison du logiciel libre, un concept unique. Un article de la rédaction et une URL qui ne marche pas.
Oui, c'est cassé, je sais pas, je crois que c'est leur site qui a du mal, mais ça n'empêche, il y avait un truc intéressant, moi j'ai eu le temps de le lire.
Ouais, ça résumait, en fait, c'était une école qui lance en fait une maison du logiciel libre où il y a en fait des entreprises qui viennent pour proposer des projets. Donc on parle de grosses entreprises, ça peut être du Google, ça peut être des choses de ce type-là. Et les étudiants ou des personnes qui sont motivées peuvent prendre contact avec cette maison du libre et prendre un projet à réaliser. Donc ils sont encadrés et aidés là-dedans, et ça leur permet d'apprendre justement ce que c'est du logiciel libre, comment ça fonctionne, comment on contribue, etc.
Sachant que ce concept de maison du logiciel libre, c'est quelque chose qui nous plaît bien. Il y en a qui existent à d'autres endroits, à Brest notamment. C'est pas mal, ça regroupe différentes associations en fonction des formats. Et c'est vrai qu'à Paris, on a toujours caressé cette idée, mais c'est pas simple. Il y a des coûts incompressibles qui sont pas faciles à gérer.
Si vous avez des locaux sous la main, on est preneurs.
La Gazette.fr, les collectivités peuvent être protecteurs des communs. Donc une interview de Valérie Peugeot menée par Romain Mazon.
Donc un long article, une longue interview qui présente en fait tout l'écosystème des communs, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce que c'est exactement. Ça explique, ça donne des définitions, en tout cas des semblants de définitions, parce que justement elle admet elle-même, c'est très compliqué d'avoir des définitions claires sur le sujet.
Moi je trouve qu'il y a un peu c'est mon cheval de bataille, c'est ma marotte sur le sujet. Mais justement ça paraît bien dans l'introduction, puisqu'elle commence par une définition avec trois critères. Donc formation d'une communauté qui se mobilise autour d'une ressource. Ressource est gérée selon des logiques de partage qui ne sont ni celles de la propriété publique ni celles de la propriété privée. Et des bouquets de droits d'usage qui viennent se substituer à la propriété. Et donc dans cette définition-là, on a clairement cette notion de rareté puisqu'on est en train de gérer une ressource. Or, après, elle cite le numérique en disant que c'est le numérique qui a permis de remettre au goût du jour cette notion, qui est très intéressante, mais que justement ce sont des biens non rivaux, c'est-à-dire que cette question de rareté, elle n'existe pas dans le numérique à partir du moment où on peut dupliquer les données. Donc je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu boiteux dans cette définition quand même.
Voilà, mais bon, l'article est intéressant, ça pose le contexte, ça pose les problématiques qui sont soulevées aujourd'hui avec les problèmes de droits d'auteur, de gestion de ces biens communs, que forcément les sociétés commerciales aimeraient bien mettre la main là-dessus, parce qu'effectivement c'est rare, donc c'est cher.
Il y a cette mise en opposition justement hein, entre l'économie privée, l'économie publique, c'est une sorte de troisième voie. Moi j'aime bien l'idée quand même. Alors je suis pas fan de la terminologie, pour moi le libre c'est encore un autre mouvement qui se bat contre les enclosures, je sais pas comment on dit en français d'ailleurs, et il y a vraiment un combat contre des gens qui veulent s'accaparer ce qu'on fait et ce qu'on essaye de faire, mais le libre c'est une troisième voie, et donc c'est intéressant parce que ça se met vraiment dans un nouveau mouvement, nouvelle forme d'économie, et il y a des prix Nobel derrière tout ça, hein, donc c'est vraiment quelque chose de costaud, il y a plein de gens qui s'y intéressent, donc c'est quand même un truc à voir dans l'avenir quoi.
Ouais, alors les enclosures, hein, c'est une notion très intéressante qui fait référence à un épisode historique en Grande-Bretagne, où justement les communs qui étaient les terrains agricoles ont été vendus à des propriétaires et mis avec des clôtures. Ce que dit Valérie Peugeot, c'est que c'est en train d'arriver actuellement en Afrique et que pareil, on a des terrains qui sont des terrains communs et qui sont en train d'être propriétarisés. Et elle parle également de nouvelles enclosures et là j'aime bien faire un parallèle avec la notion de propriété intellectuelle, où on invente des nouveaux droits de propriété, et ce qui permet finalement de s'accaparer le monde en disant cette idée m'appartient ou tel truc m'appartient. Et finalement,
ce mot, hein, parce que ça marche sur les mots, les petits dessins, les logos, les choses comme ça.
Et
ça
au final, on en revient à créer des rentes et des choses comme ça. Et voilà, donc l'article est assez complet. Il y a un peu ce truc boiteux, moi, qui m'embête, mais ça vaut quand même le détour hein, si on s'intéresse au sujet. L'éco-républicain à la découverte des logiciels libres à Bretoncelles, un article de Muriel Bansard.
Ouais, c'est juste un petit article qui fait le point sur Angul, hein, qui a fait des actions il n'y a pas si longtemps que ça pour installer des Ubuntu sur des postes ou vraiment promouvoir le logiciel libre et la culture libre un peu partout. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, allez-y, la maison est
ouverte. C'est un EPN, l'espace public numérique, hein, il me semble.
C'est ça.
Bretoncelles, c'est dans quel coin ?
Oh, vas-y Nico.
C'est dans l'Eure-et-Loire apparemment.
On avait François Poulain qui est un de nos administrateurs qui était là-bas pour faire une conférence et participer à cet événement. Donc bravo à eux, on aime toujours bien ces événements. Ça a très bien marché hein, puisqu'ils ont fait ça le comble, surtout la durée de l'événement. Ledevoir.com, les éco-bricoleurs du climat s'active en marche de la COP21, un article d'Isabelle Paré.
Donc en fait, c'est des petits groupes qui se sont fondés un peu en marge de la COP21, donc la grosse conférence sur le climat.
Oui, enfin, c'est pas complètement marge, puisque c'était quand même un truc institutionnalisé prévu à l'avance, mais on en avait pas mal parlé cet été. Hein.
Et leur but, c'était de montrer qu'il y avait des possibilités de bidouiller, de hacker, de trouver des nouvelles solutions, des trucs tout cons, hein, par exemple une douche infinie qui recycle son eau au fur et à mesure, des bicyclettes pour faire du transport de charges lourdes,
ils ont appelé ça la COP21.
La COP21. Proof of Concept 21. Voilà, donc il y a plein de trucs assez marrants. Comment faire de la bidouille tout en étant respectueux du climat et étant écologique. Donc c'est des choses assez intéressantes.
Et tout ça, bien sûr, dans un contexte libre. Les plans sont forcément en accès libre. Donc c'est vraiment des idées, des gens qu'on apprécie. Et tout ça, c'est assez bien marketé. Il y a une bonne com, donc ça marche bien.
Oui, surtout que la COP21 est quand même financée par les entreprises les plus polluantes qu'on peut avoir. Et que grâce à notre état d'urgence, il y a tout un tas d'écolos qui ont été assignés à résidence, perquisitionnés. Mais voilà, tout va très bien.
Sur ce, à la semaine prochaine.
On espère vous y revoir en tout cas.
Bonne semaine à tout le monde.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'APRIL, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fiévet et Nicolas Vinault.